Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Depuis sa première édition, en 1694, le dictionnaire de l'Académie française perpétue une tradition pluriséculaire. Sa mission, dire le bon usage de la langue française, tout en se montrant attentive à ses évolutions. La compagnie travaille actuellement à sa 10e édition, débutée il y a 2 ans maintenant, et pour faire connaître l'avancée de ce chantier au grand public, l'Académie a décidé cette année de créer un nouveau rendez-vous annuel, la Journée du Dictionnaire, qui se tiendra chaque début juin et permettra de présenter, année après année, les mots nouvellement entrés dans le dictionnaire. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'écrivain prix Goncourt Amine Malouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Accompagné du philologue et spécialiste de littérature médiévale Michel Zinc, de l'Académie française également, et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être au studio avec nous. Vous avez donc lancé cette année cette journée du dictionnaire, une grande première pour l'Académie française. Comment est née cette idée, Amine Malouf ?
En fait, ce qui a rendu nécessaire la création d'une journée du dictionnaire, c'est que la manière de faire le dictionnaire a changé. Depuis le XVIIe siècle, nous avions l'habitude de travailler pour des éditions qui sortaient tome après tome, et nous n'avions pas besoin d'en parler chaque année. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Le dictionnaire n'est plus uniquement en papier, il est également en ligne. Nous pouvons mettre en ligne un certain nombre de mots sans attendre qu'un volume soit imprimé. Cela crée forcément des habitudes nouvelles. Nous allons, à partir de cette année, annoncer, pour donner une certaine solennité, malgré tout, à la sortie des nouveaux mots, nous allons annoncer les nouveaux mots, les changements éventuels dans le dictionnaire, chaque année, tout au long de l'élaboration de cette 10e édition.
Qui va durer quelques années. On reviendra sur les nouveaux mots qui feront leur entrée dans le dictionnaire. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de ce dictionnaire. Je l'ai dit en introduction, la première édition date de 1694. Et l'histoire de ce dictionnaire est intrinsèquement liée à la raison d'être de l'Académie française et donc à un homme en particulier, le cardinal de Richelieu, le fondateur de l'Académie française. Quelle était l'ambition de cet homme, Michel Zinc ?
Au XVIIe siècle, le français est une langue qui existe depuis très longtemps, mais c'était une langue qui s'était développée spontanément, comme anarchiquement, avec une littérature déjà très riche. Et au XVIIe siècle, le siècle où la monarchie française se fixe sur des bases solides, s'oriente vers la monarchie absolue, qu'elle est déjà un peu sous l'étreinte, qu'elle sera tout à fait chez Louis XIV, eh bien, on considère que les lettrés sont une sorte d'élite qui a la capacité de définir ce qu'est le bon français, qui est le français de la cour et de la ville, comme on disait. Et Richelieu, soucieux de tout diriger, considère qu'il pourra, en somme, un peu domestiquer cette académie qui existait déjà, mais comme un cercle privé.
Elle existe depuis 1635.
En 1635, il réunit un cercle lettré qui existait déjà, il choisit les membres qu'il veut, il en ajoute d'autres. Ces membres sont d'abord nommés, ensuite ils se coopteront, mais toujours sous l'autorité du chef de l'État, formellement encore aujourd'hui. Et donc c'est ce beau français qu'ils essayent de définir. La conséquence, c'est que le français, à la fois, se purifie dans la conception qu'ils s'en font, mais en même temps, il s'appauvrit. Le dictionnaire de 1694 contient infiniment moins de mots qu'il n'en existait dans l'ancien et dans le moyen français, dans les états premiers du français. Aujourd'hui, notre dictionnaire atteint quelque chose comme 56 000 mots. Je parle sous le contrôle du secrétaire perpétuel, hein, mais c'est le nombre de mots que compte à peu près un dictionnaire d'ancien français, ancien moderne, ou ancien français allemand, enfin, tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, il y a eu un appauvrissement, et aujourd'hui, mais d'édition en édition, on a vu évoluer non seulement le sens des mots, mais la conception de la langue, et aujourd'hui, où la société a tellement changé, eh bien, l'idée que nous nous faisons d'un dictionnaire d'usage et même de bon usage, en gardant l'adjectif bon du français, est une idée tout à fait différente de celle réduite à l'élite de la cour royale et de l'élite parisienne.
Ça, c'est vraiment la philosophie de ce dictionnaire. Vous vouliez ajouter quelque chose,
oui,
à... M. Malouf ?
Je vais aller dans le même sens. C'est vrai que dans l'esprit de Richelieu à l'époque, fonder une académie et lui confier la langue, pour qu'elle s'occupe de la bonne tenue de la langue, cela fait partie d'un projet national. S'il faut unir le pays, lui donner des institutions, il est essentiel d'avoir une langue unificatrice. Et je pense que cette tendance à l'unification du pays à travers une langue commence essentiellement avec François Ier. Et Richelieu essaie de l'institutionnaliser d'une manière solide, définitive. L'importance de la langue, ce n'est pas seulement d'avoir une langue commune à toute la population, c'est également de permettre à la nation de se développer. Il dit clairement déjà dans les lettres patentes qui fondent l'Académie qu'il faut que la langue puisse exprimer tout ce qui concerne les arts, les techniques, les sciences. Et donc, cette mission confiée à l'Académie, c'est la mission de doter la nation d'un outil qui lui permette de s'unir et de progresser.
Je voulais revenir sur l'article 24 des statuts de l'Académie française. La mission confiée à l'Académie est claire. La principale fonction sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Et j'insiste sur ces derniers mots, traiter les arts et les sciences. C'est pour cette raison que cette académie rassemble aussi des personnalités scientifiques.
Oui, et aussi parce que la formule de Richelieu, ce qu'il a en tête, ce qui est implicite, c'est que la langue qui permet de tout dire jusque-là et encore au XVIIe siècle, c'est le latin. L'enseignement universitaire est encore largement en latin, en théologie naturellement, mais en médecine, en droit, alors... L'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a donné naissance au centre qui existe maintenant, avait dit que le droit serait rendu en français. Ça a été une grande nouveauté. Pas tant que cela, parce que depuis deux siècles, fin du XIVe siècle, il y a des ordonnances royales qui disent qu'il faut parler de façon à être compris. Mais ça pouvait être aussi dans les langues régionales. Et là, on précise qu'il s'agit du français. Mais c'est parce que la langue de culture était le latin. Et sera un peu plus tard, enfin, était déjà, mais avec les humanistes, mais sera encore plus tard avec Port-Royal, le grec. Et donc, les académiciens sont des gens qui, d'abord, savent le latin et le grec, mais qui, en plus, comme ils sont cultivés, sont capables de donner aux Français ces règles qui existe dans les langues anciennes. Dante, qui définit le premier le nom des langues vernaculaires, selon la façon de dire oui, la langue de si, qui est l'italien, la langue d'oc, qui est la langue d'oc, la langue d'oïl, qui est le français, eh bien, Dante, d'ailleurs c'est l'usage du temps, pour le latin, ne dit pas le latin, il dit grammatica. La grammaire. Le latin, c'est la langue qui a une grammaire. Eh bien, il faut que le français aussi ait un vocabulaire précis et complet et une grammaire. L'Académie a été moins heureuse du côté de la grammaire, mais passons.
Monsieur Malouf ?
Oui, je pense effectivement que la préoccupation qu'il y avait au XVIe siècle, c'était que l'on puisse tout exprimer en français, qu'on ne soit pas obligé de passer par le latin ou quelquefois par l'italien. Aujourd'hui, il est évident que le souci, c'est de pouvoir exprimer tout ce que donne le monde moderne à travers la langue française sans être obligé de passer par une autre langue qui est le plus souvent l'anglais. Donc, je pense que c'est un devoir pour nous de donner aux locuteurs de la langue française les moyens de tout trouver dans leur langue sans être contraints
de passer par,
de passer par l'anglais.
Une autre langue. Je voulais parler du fonctionnement de cette Académie française et de cette commission du dictionnaire. Michel Zinc, vous faites partie de cette commission du dictionnaire. Tous les membres de l'Académie française ne font pas partie de cette commission, je crois bien. Combien sont-ils exactement ?
Oui, alors ben, c'est sous l'autorité du secrétaire perpétuel. Donc là encore, je parle sous son contrôle. Nous sommes 10, enfin, il y a une dizaine de membres de l'Académie font partie de la commission du dictionnaire. Et donc, cette commission se réunit le jeudi matin, avant la séance plénière de l'après-midi. Et elle prépare le travail avec l'aide du service du dictionnaire, qui n'existe pas depuis si longtemps, depuis quelques décennies, qui est composé de spécialistes, de professionnels, en somme, de la langue.
De lexicographes, de rédacteurs.
Des agrégés de lettres classiques ou modernes, quelquefois, de grammaire, etc. Donc, des lexicographes, vraiment, qui préparent le travail. Et ensuite, nous travaillons ensemble et de façon complémentaire, parce que les personnes ont une habitude du travail sur la lexicographie plus poussées que nous. Elles savent plus rapidement que nous aller chercher dans les divers instruments, etc. Mais nous, enfin moi, je ne suis qu'un pauvre prof, hein, mais les professeurs, les grands écrivains qui sont parmi nous, etc., ont un autre type d'expérience de la langue qui est extrêmement utile pour le dictionnaire. Les profs eux-mêmes, de temps en temps, ont une idée sur l'histoire de la langue, enfin bon, particulière. Et puis, il y a, mais nous en reparlerons, nous, c'était plus maintenant la langue de la cour et de la ville, mais c'est l'ensemble du français, non seulement en France, mais ailleurs dans le monde. Et par exemple, il est très précieux d'avoir parmi nous notre confrère Dany Laferrière, qui est haïtien, mais qui vit beaucoup au Québec, et qui constamment attire notre attention sur le fait que ce mot, ça s'emploie dans tel sens au Québec ou dans la Caraïbe, ou que tel mot existe, etc., que nous pourrions inclure. Comme nous incluons maintenant de temps en temps des mots régionaux, nous évitons le mot régional, nous disons c'est un mot du Berry, c'est un mot du Lyonnais, etc. Des mots qui sont employés par des écrivains français, des écrivains absolument nationaux, mais qui ont conservé, qui trouvaient qu'ils avaient une saveur, et il serait dommage d'appauvrir la langue de mots que l'on trouve. Pardon, je suis trop long.
Ça me fait penser à un mot que j'avais entendu lors d'un voyage en Haïti il y a très longtemps, et un jour je le proposerai pour l'introduire. Ce n'est pas un mot nouveau, mais c'est un sens nouveau à un mot qui existe. On dit de quelqu'un qui est un peu insistant, on dit « il est fréquent ».
Il est ?
Fréquent.
Fréquent.
Oui. Donc, une manière de dire il appelle tout le temps, il est fréquent. Je ne l'ai jamais entendu ailleurs qu'en Haïti, et je pense que ça mériterait d'entrer au mot fréquent. Je voudrais juste revenir sur la question du fonctionnement de la commission et de la manière dont on fait le dictionnaire. Ça prend beaucoup de temps, un dictionnaire. Et on nous a beaucoup reproché, autrefois, de passer autant de temps. Par exemple, la 8e édition, elle a été publiée en 1932-1935, et la 9e s'est terminée en 2024, donc quasiment 80 ans.
En moyenne, on est à 36 ans, si on prend l'ensemble des éditions.
Et je pense que ce n'est pas normal que ce soit aussi long, mais en même temps, c'est un immense travail. Donc, il y a un dispositif qui n'est pas, comme l'a dit Michel, ce n'est pas tellement ancien. un dispositif, je pense que c'est M. Drouhon qui l'avait
installé. Oui, c'est très récent.
D'abord, d'avoir un service du dictionnaire extrêmement compétent, extrêmement efficace, d'avoir une partie de l'Académie qui, parallèlement au travail habituel qui se passe dans l'après-midi, consacre tous les jeudis matins, pendant 3 heures, exclusivement au travail du dictionnaire. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer dans les dernières années pour terminer la 9e édition.
Plus rapidement. Alors, traditionnellement, le dictionnaire avance lettre par lettre dans l'ordre alphabétique, mais cette 10e édition introduit une nouveauté dans la méthode. Les académiciens peuvent désormais s'emparer d'un mot hors de cet ordre alphabétique. Comment ça fonctionne en pratique, Michel Zinck?
Bon, nous avons repris l'ordre alphabétique, mais il y avait des mots dont la définition datait beaucoup. Comme le disait Amine, ce dictionnaire a avancé très lentement au début, mais il avait quand même un petit peu commencé dans les années 30, de sorte que les mots de la lettre A avaient des définitions très anciennes. Mmh. Or, la société a beaucoup changé, très rapidement changé, dans les dernières décennies, enfin dans divers domaines. Le dictionnaire a commencé, cette 9e édition, lorsque la France avait un empire colonial. Et bien, c'est des questions qu'on n'aborde plus de la même façon aujourd'hui. Et comment ? De sorte que nous avons commencé par traiter rapidement ces mots qui nous avaient valu des reproches justifiés, mais qui étaient fondés sur le fait que les lecteurs ne se rendaient pas compte que c'était des définitions très anciennes. Donc, race, racisme, et enfin des mots comme cela. Et d'autre part, je ne sais pas, la définition de l'homosexualité et des homosexuels, évidemment, ne pouvait pas être conservée telle quelle à une époque où, en principe, ça vous conduisait en prison. De même, tout ce qui est colonie, colonial, colonialiste. Et même, on a commencé avec hommes et femmes, et on y a passé des journées. Et on s'est disputé comme des chiffonniers sur... c'était très compliqué. Si vous regardez femmes, la 9e édition commence par définir la femme par le fait qu'elle peut avoir des enfants. Bon, c'est la reproduction. La 10e édition, nous avons repris le mot, la reproduction est mentionnée naturellement, mais pas en premier ni comme caractère unique. Et si on se reporte à la première édition, donc ils ont commencé en 1635, ils publient la première édition en 1694, on regarde femme, on trouve définition femelle de l'homme. On ne peut plus avoir comme définition pour femme, femelle de l'homme. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt d'avoir le dictionnaire en ligne et de pouvoir toutes les définitions.
De voir l'évolution. On va en parler dans un instant, mais pour aller dans votre sens, ce qu'il y a de nouveau également avec cette nouvelle édition, c'est que les articles, les mots sont publiés au fur et à mesure dans la version en ligne avec une date de publication pour chaque mot.
Ça, je peux dire, Amine, maintenant,
c'est une proposition de Michel.
Ça vient d'où ?
Et j'ai beaucoup insisté pour cela.
Absolument, et il a entièrement raison. Je crois qu'il est important aujourd'hui, quand on fait une définition, de la dater, parce que nous pouvons, dans 10 ans, faire une autre définition sans avoir à renier celle qui a été faite en 2026. Et le fait de mettre une date, ça veut dire, voilà, en 2026, on pouvait définir de cette manière, et en 2036 ou 2056, ils vont définir d'une autre manière, ce qui est parfaitement légitime. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les éditions du dictionnaire ne vont plus, à partir de maintenant, se faire uniquement par le nombre, c'est-à-dire on n'aura pas simplement première, deuxième, neuvième, dixième, on va mettre une date de fin. Donc, la 9e a été terminée en 2024, nous allons fixer une date, probablement autour de 2050. Tout ce qui sera fait d'ici 2050 fera partie de la 10e édition, et après 2050, et probablement pendant 25 ans, nous aurons la 11e édition. Et je crois que c'est la seule manière de fixer dans le temps les éditions, parce que sinon, c'est un flux qui ne s'interrompt pas.
D'ailleurs, on ne suit plus absolument l'ordre alphabétique. Comment savoir quand on a fini ? Et donc, comme la diamine, c'est le bon sens. Tous les 25 ans, on dit, voilà, ça fait un ensemble, on passe à...
Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de traiter absolument tous les mots dans la 10e édition. Il y a des mots que nous pourrions juger suffisants dans la 9e. Les gens qui vont mettre ce mot sur l'application du dictionnaire, ils vont tomber sur la définition de la 9e édition. On n'a pas besoin... À chaque fois de mettre la...
Et on le voit d'un coup d'œil. Maintenant, si vous sortez votre téléphone, que vous cherchez un mot, vous voyez, si par défaut, vous trouvez l'article le plus récent, et vous voyez si c'est 10e édition en cours, 9e édition, ou si c'est un mot qui était dans la 8e ou dans la 4e,
et qui a disparu depuis.
Et vous voyez les éditions où le mot apparaît, mais avec des... définitions différentes. Donc c'est l'intérêt de ce dictionnaire. Ce dictionnaire qui était un intérêt de l'usage qui se voulait perpétuellement contemporain et qui était perpétuellement en retard, est maintenant un dictionnaire contemporain qui peut être toujours vraiment contemporain et qui est en plus un dictionnaire historique qui permet de voir l'évolution de la langue.
Alors, il y a les mots, comme vous venez de le dire, qui ne changent pas de définition. Et puis, il y a les nouveaux mots. 300, à peu près 350 nouveaux mots ont déjà fait leur entrée dans la 10e édition. Est-ce qu'il y en a un que vous vouliez chacun commenter, Amine Malouf ?
Les nouveaux mots, il y en a de toutes sortes. Il y a des mots qui sont vraiment nouveaux, c'est-à-dire qui ont été inventés pour exprimer une réalité nouvelle liée parfois aux nouvelles technologies. Il y a des mots qui étaient sortis d'usage parce qu'on ne les employait pas.
Abuseur, par exemple.
Oui. Nos prédécesseurs n'entendaient pas beaucoup ce mot. Et nous l'entendons beaucoup. Et donc, ce mot revient. Et celui qui va consulter le dictionnaire va trouver à la 10e édition le mot abuseur tel qu'il est défini aujourd'hui. Ils ne vont pas trouver le mot dans la 9e, mais probablement dans la 8e avec
une autre définition.
Et avec une autre définition. Ou vous me demandiez un mot nouveau qui m'a frappé, c'est un mot en A d'ailleurs, c'est abandonique.
Abandonique,
je ne savais même pas que ça existait, il paraît que ça s'emploie.
Alors
beaucoup,
qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est pour quelqu'un qui éprouve le sentiment d'être abandonné, qui n'est pas forcément abandonné, mais qui a le sentiment. Et c'est un syndrome, ou c'est une maladie, ou ça peut être grave. Par exemple, un enfant abandonné, qu'un enfant dont on ne s'occupe pas assez, ou dont on s'occupe, il a le sentiment qu'on s'occupe moins de lui que du reste de la fratrie, ou n'importe quoi. Un enfant abandonné, et il faut s'en occuper, et il faut le soigner. Je suis certain qu'effectivement, je suis sûr que cela répond à un besoin. Donc, je suis pour abandonner, bien qu'au départ...
Moi, j'avoue que je ne l'avais jamais entendu.
Moi non plus. un mot sur les mots qui sortent. Vous avez des critères précis pour sortir un mot ?
Justement,
Monsieur Malouf.
Autrefois, il y avait un dilemme. Parce que pour entrer un nouveau mot, il fallait enlever un mot, parce que l'espace était limité. Aujourd'hui... d'une part, nous n'avons plus ce problème, puisque la taille du dictionnaire peut être illimitée. Et deuxièmement, ceux qu'on a dû abandonner en cours de route, ils renaissent, puisque si on cherche ce mot, on va le retrouver, pas dans la dernière, mais dans l'avant-dernière ou celle d'avant. Et donc, tous les mots qui sont morts au cours
finalement,
ressuscité.
Oui. À vivre. Monsieur Zinc.
Et alors, nous avons des discussions là-dessus, autour de la notion de vieilli. Parce qu'on trouvait dans les éditions, pour tel mot, vieilli. Alors, certains d'entre nous disent, ce n'est pas la peine de mettre vieilli, puisque si on cherche ce mot, on verra qu'il est vieilli, puisqu'on ne le trouve que dans une édition plus ancienne, ce qui est imparable. D'autres disent, mais il peut y avoir des écrivains qui, par coquetterie, par effet de style, des poètes, etc., emploient le mot sans que on dise il est allé chercher un mot passé. Donc chaque fois qu'apparaît la tentation de mettre vieilli, nous savons cette discussion, puis nous en sortons. On finit toujours par s'entendre. D'ailleurs, on s'amuse beaucoup en fait à la commission du dictionnaire.
Et effectivement, nous Elle avons même. souvent des discussions autour du mot vieilli. Parce qu'il y a une sorte de sagesse qui est répandue chez les académiciens qui dit, à partir du moment où on qualifie un mot de vieilli, on est en train de le vieillir. Mmh. C'est-à-dire, on est en train de le pousser vers la sortie. Et donc, il faut l'éviter. Il y a beaucoup moins de mots vieillis dans la nouvelle édition que dans la précédente, et il y en aura de moins en moins. La doctrine que nous avons aujourd'hui, à ce propos, c'est de dire quand un mot a radicalement changé de sens, il faut mettre vieilli pour éviter qu'il soit utilisé. Par exemple, quelqu'un qui aime les chiens et les chats, on l'appelait zoophile. Bon, zoophile, aujourd'hui, ça a tout au sens. Donc, quand on met zoophile pour dire que ça voulait dire que c'est quelqu'un qui aime les animaux de compagnie, il faut dire vieilli, quand même.
Bien sûr, voilà. Oui, ça fait sens.
Notre confrère Frédéric Vitou, dont la moitié de l'œuvre est consacrée aux chats, on ne peut pas lui dire, cher ami, comme vous êtes zoophile. Donc, pas possible.
Non, ça entraînerait des quiproquos. Les chiffres de consultation de ce dictionnaire sont assez surprenants. Plus de la moitié des visiteurs du dictionnaire en ligne se connectent depuis l'étranger. Est-ce qu'il y a un pays qui ressort plus que d'autres en dehors de la France, bien sûr ?
Je dois vous avouer que je ne le sais pas.
Ça, je ne sais pas. On nous l'a dit.
Vous regarderez.
Mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le consulter. Et j'en profite pour inviter tous ceux qui nous écoutent à télécharger l'application du dictionnaire qui est gratuite et qui est, à mon avis, très agréable à utiliser. Et je crois que moi, je l'utilise tous les jours.
Moi, je l'utilise constamment.
Ne serait-ce que pour vérifier.
Et chaque fois que je suis avec quelqu'un ou avec une personne, je sors mon dictionnaire. Et si cette personne n'a pas chargé son dictionnaire, je dis, mais fais-le ou faites-le tout de suite. Bon. Ou dans les dîners en ville, je dis, ne plus en ville. Maintenant, on va faire mon dictionnaire. Et je fais mon petit numéro. Mais parce que, une fois qu'on l'a chargé, on ne peut plus s'en passer. C'est le plus facile à utiliser, celui qui apporte le plus de renseignements. C'est notamment pour les mots nouveaux, c'est que nous sommes obligés d'introduire un très grand nombre, proportionnellement, de mots scientifiques, parce que là encore, les choses ont changé. D'abord, l'usage d'Internet fait, depuis longtemps, relativement, fait que beaucoup de mots, par exemple du vocabulaire médical, qui n'était employé que par votre médecin qui faisait le malin et qui était le seul à savoir ce que c'était. Maintenant, tout le monde se médique toujours, va regarder tout seul sur Internet, donc ces mots sont devenus usuels. Le vocabulaire d'informatique est très récent. Enfin, vous êtes né avec, mais enfin, moi, j'étais déjà vieux. Et il faut bien le prendre en compte, il change constamment.
Et c'est un débat chez nous.
Oui.
C'est un débat, parce que le vocabulaire technique est illimité. À partir de quel moment un mot mérite d'entrer dans un dictionnaire d'usage ? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent, très souvent.
On en admet beaucoup.
On en admet, en fait, de plus en plus. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de dire, non, ce mot, il est réservé aux spécialistes, parce que, comme dit Michel, il y a peu de choses aujourd'hui, qui sont réservés vraiment aux spécialistes.
Bien sûr. Il n'y a plus de contraintes matérielles non plus avec cette édition en ligne.
Tout à fait.
Donc. Deux, trois dernières questions. On en a déjà un petit peu parlé, mais la commission affiche aussi une volonté d'ouverture vers la francophonie. Donc, parmi les nouveautés introduites avec cette 10e édition, pour les apprenants du français, l'Académie a ajouté dans chaque article la prononciation en alphabet phonétique international. Voilà, ça méritait qu'on le signale. Il y a également également d'autres mots empruntés à la francophonie qui font leur apparition, où certains sont en passe d'être intégrés, comme le verbe que j'aimais bien, girafer. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, girafer ?
On voit bien, en fait, le sens, quand on entend le mot, c'est quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule
qui copie
d'une personne. Et on voit bien la girafe qui,
au
long cours...
C'est le cancre qui copie sur son voisin.
On espère que le mot rentrera... très vite dans le dictionnaire.
En tout cas, le sens vient spontanément à l'esprit, donc ce n'est pas un mot qu'il faut expliquer, c'est clair.
Alors, pour la prononciation, en principe, la question est réglée, mais nous avons des hésitations, pas d'hésitation. Par contre, on ne peut pas mettre toutes les prononciations du français. Donc, nous ne disons pas la prononciation de Paris, parce que c'est désobligeant pour le réservoir, etc. Nous disons la prononciation d'Île-de-France. Bon. Et puisqu'on peut entendre maintenant la prononciation, c'est celle-là. Et c'est admis qu'on ne peut pas entendre à la fois le québécois, la prononciation du Gabon. Mais, c'est moi là encore qui fais... Enfin, pas le mauvais esprit, je crois que j'ai raison. Mais enfin bon, une question pour ce qui était autrefois le « e » central et qui est devenu le « e » muet et qui ne se prononce plus en fin de mot. Mais à l'intérieur d'un mot, par exemple « commencement », on prononce « commencement ». Et le service du dictionnaire proposait de mettre en orthographe, enfin, dans l'alphabet phonétique international, « commencement », comme s'il n'y avait pas de « e » central. Mais je fais remarquer deux choses. Un, que nous espérons... que la poésie régulière, la poésie classique du français, n'est pas morte, qu'on continuera à lire Racine ou à lire Baudelaire. Pour les lire, il faut prononcer ce « e » central, sinon le verre est faux. Ce serait quand même dommage. Et même la Comédie française, quelquefois, on l'entend quelquefois prononcer exprès des vers faux, et bien c'est une erreur, parce que, en fait, les jeunes gens qui sont très sensibles au rythme sont très sensibles à un verbe juste et faux. Et l'autre raison, c'est que, mon ami François Sureau a beau dire, quand je reprochais que le français, ça s'arrête à la vallée de Chevreuse, mais c'est pas vrai. Et la moitié de la France, tout le sud de la France, prononce ces E. Tous les pays de Languedoc parlent français, mais ils disent le commencement, ils prononcent toutes les lettres. Et il n'y a aucune raison de se moquer de l'accent du Midi. Et il peut être d'ailleurs imperceptible, mais même on repère qu'ils sont du Midi parce qu'ils font légèrement entendre ce muet. Par exemple, notre éminent confrère, monsieur le chancelier de l'Institut.
Xavier Darcos.
Xavier Darcos, fait entendre. Et donc, là aussi, je crois avoir obtenu qu'il figure dans une sorte de losange, enfin de parenthèse particulière. Dans la transcription phonétique, pour qu'on voit qu'il ne se prononce pas généralement, mais qu'on peut le prononcer, il y a des cas où on peut le prononcer. Excusez-moi, je suis intéressant.
Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de présenter cette édition en cours dans notre studio. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à aller consulter le portail numérique de ce dictionnaire, entre toutes ces éditions à comparer, les mots à explorer au fil du temps, le courrier des internautes dont on n'a pas parlé, il y a de quoi s'y perdre vraiment des heures. Donc allez-y. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Marie.
Les podcasts de l'Institut de France.